Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il va tout nous dire sur les nouveaux protocoles en vigueur à l'école, auto-test, fermeture des classes, en cas de contamination, examen du bac. C'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui sera avec nous dans quelques minutes et on va évidemment lui poser plein de questions. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voies. Y a-t-il un risque d'explosion des Républicains après l'accord passé en région PACA? Ça crée en tout cas une sérieuse pagaille, on en parlera. 19h10, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson. Coup de cœur ce soir pour les clubs de foot anglais qui ont décidé de boycotter les réseaux sociaux. On verra pourquoi, on en parlera. Et puis 19h20, le grand débat comme chaque soir du Club des Idées. Ce soir, faut-il abolir l'héritage? Joe Biden a créé la surprise en annonçant vouloir taxer les successions aux États-Unis. Et par conséquent, chez nous, le débat fait rage. L'héritage serait le terreau du creusement des inégalités, dit la gauche et certains libéraux. Certaines grandes fortunes ont d'ailleurs décidé de déshériter leur progéniture. Alors entrave à la liberté de transmettre ou vraie mesure sociale? On en débattra tout à l'heure avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec toute l'info. Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Oui, j'ai tué le caporal Arthur Noyer, mais ce n'était pas volontaire. Je n'ai jamais voulu lui donner la mort. Au premier jour de son procès, Nordal Le Landais réitère ses aveux face aux parents de sa victime.
Au collège comme au lycée, une rentrée rythmée par les demi-jauges.
Mais des élèves quand même soulagés de ce retour à un semblant de vie normale après un mois à la maison.
Alors que la reprise se profile dans de nombreux secteurs d'activité, le ministre de l'Économie promet un assouplissement des conditions d'accès aux indemnisations des pertes.
Les régionales, c'est le grand cafouillage dans le sud de la France. Renaud Muselier tente une mise au point, mais ça n'est pas beaucoup plus clair. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,61% à 6307 points.
Et puis la météo avec Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le retour de l'humidité demain.
Oui, avec une perturbation qui va nous apporter de la pluie et du vent fort sur toute la moitié nord du pays. Ça commence dès cette nuit. Dans le sud, nous aurons un temps bien plus printanier. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc un premier procès pour Nordal Le Landais. Il y en aura d'autres. 4 ans après les faits, il est jugé depuis ce matin pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer.
Oui, Nordal Le Landais, qui, on le sait, est également impliqué dans la mort de la petite Maëlys.
Une première comparution très attendue, en tout cas, notamment pour les parents, bien sûr, du caporal Noyer, qui, pour la première fois, ont pu croiser le regard de l'assassin de leur fils. Maître Bernard Boulou est leur avocat. Pour lui, Le Landais cache bien son jeu.
C'est le gendre idéal, bien habillé, propre sur lui, barbu, bien peigné, etc. C'est plus du tout la même physionomie, la même image que vous avez depuis 4 ans dans les journaux. Ça n'a plus rien à voir. C'est la manipulation. Il manipule son monde. Il veut manipuler les jurés, il veut manipuler les juges. Il veut sauver sa peau. Donc le fait de se présenter comme monsieur tout le monde, c'est le propre du sociopathe. C'est le type qui s'adapte, c'est le gendre idéal. Vous le croisez, vous mangez avec lui, vous buvez avec lui, personne ne se rend compte. Tout le monde vous dira que jamais on a imaginé que ce type-là avait pu tuer 2 personnes. Jamais.
Maître Bernard Boulou, l'avocat des parents d'Arthur Noyer, au micro européen de Jean-Luc Boujon.
Marion Dubreuil, vous avez donc suivi cette première journée d'audience à Chambéry avec un Nordal Le Landais qui est resté fidèle à sa ligne de défense.
Oui, Nordal Le Landais maintient sa version des faits. J'ai donné la mort à Arthur Noyer, mais je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu lui donner la mort. Les parents d'Arthur ne le quittent pas des yeux. En quête d'explication, le président les a pourtant mis en garde ce matin. Les assises peuvent être violentes et ils n'auront peut-être pas les réponses qu'ils attendent. Sur la forme, Nordal Le Landais renvoie une image aux antipodes de la violence et de l'acharnement dont il a fait preuve à l'égard du caporal Noyer. La cour s'est intéressée à sa personnalité cet après-midi. Votre ex-compagne vous décrit comme quelqu'un de nerveux qui aime plaire. Ça vous correspond ? Demande le président. Nerveux, oui, quand je suis au volant, répond l'accusé. Et puis c'est vrai que j'aime m'apprêter, comme aujourd'hui à l'audience, avec une chemise bleu ciel, bien repassée, les cheveux coupés courts. Nordal Le Landais reste calme, poli, même quand le magistrat s'attarde sur la litanie de ses échecs scolaires et professionnels. L'abandon de son BTS sport, son contrat dans l'armée écourté, son entreprise d'élevage de chiens avortée, les arrêts maladie à répétition. L'avocat de la famille tente de le déstabiliser en lui rappelant que certains le qualifient de tir au flanc. L'accusé ne sort pas de ses gonds, sourit et nuance. Je ne suis pas un grand fan de travail. C'est un Tanguy de 34 ans qui vit encore chez ses parents jusqu'au basculement de 2017, l'année des meurtres d'Arthur et de Maëlys. Je ne savais pas où j'allais, confie l'accusé. Mes amis construisaient leur vie et moi, j'étais un vagabond.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1 en direct de Chambéry. 3 skieurs de randonnée sont morts aujourd'hui, emportés par une avalanche dans le massif des Écrins, dans les Hautes Alpes. Vieux-Lube sur la commune de Villard-d'Arène. Une rentrée hybride, mais une rentrée enfin pour les collégiens et pour les lycéens après un mois à la maison.
Oui, une semaine après les écoliers, retour en présentiel, mais en demi-jauge.
Et pour ces collégiens parisiens rencontrés tout à l'heure par Laura Taouchanoff, c'est déjà mieux que rien.
On est très loin de l'ambiance habituelle à la sortie de ce collège parisien. C'est très calme, pas de chahutage. Seule une partie des élèves ont fait leur rentrée ce matin, mais qu'importe, Marion est ravie de retrouver quelques-uns de ses amis.
J'aime bien travailler à la maison, mais en même temps j'avais envie de revoir mes amis. Et donc voilà. Même si on est séparés en groupe, maintenant c'est quand même mieux.
Au-delà du plaisir de se revoir en chair et en os, c'est aussi le moment de reprendre sérieusement le programme, explique Baptiste, un élève de 3e.
On a le brevet à la fin de l'année. Et dans certaines matières, on sait qu'on va finir le programme, mais après, dans certaines... On ne sait pas et on est content de revenir pour pouvoir réviser et travailler. C'est sûr qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps.
Et pour permettre ce retour des 4e et 3e en demi-jauge, Colette Chiche, la principale du collège, a dû réorganiser tous les emplois du temps quasiment sur mesure.
Nous avons découpé la semaine de telle manière à ce que tous les élèves aient cours, soit un jour sur deux, soit deux jours, un jour. Ce qui fait que ça nous a demandé à constituer des emplois du temps quasiment pour chaque élève qui ont besoin de pouvoir travailler sereinement comme auparavant.
La direction encourage aussi les élèves qui le peuvent à déjeuner chez eux pour limiter au maximum le nombre de personnes à la cantine.
Le reportage de Laura Taouchanoff, une reprise des cours un peu perturbée. Dans une centaine de lycées en France, les élèves ont bloqué l'entrée des établissements à l'appel de l'UNEL. Le syndicat lycéen réclame l'attribution du baccalauréat sur la base du contrôle continu et l'annulation du grand oral.
Oui, dans quelques secondes, on sera avec le ministre de l'Éducation nationale qui est ce soir notre invité à 18h20, Jean-Michel Blanquer.
Le quoi qu'il en coûte, toujours d'actualité pour les commerçants, les restaurateurs, les bars, les hôteliers, tous ceux qui sont très impactés par la crise mais qui vont bientôt pouvoir reprendre, au moins partiellement, à partir du 19 mai.
Oui, le ministre de l'économie qui a rassuré tous ceux qui s'inquiétaient d'une diminution des aides. Carole Ferry.
Oui, la fin des aides sera progressive. Bruno Le Maire l'a encore confirmé cet après-midi lors d'une réunion avec le secteur de l'hôtellerie-restauration. L'accès au fonds de solidarité va même être assoupli. Actuellement, il faut avoir perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires pour être indemnisé. Dès le mois de juin, il pourra y avoir des aides, quelle que soit la perte de ce chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'inciter tout le monde à relancer son activité pour éviter qu'un bar, par exemple, préfère rester fermé car les aides seraient plus intéressantes que l'ouverture de sa terrasse. Il reste maintenant à négocier le montant de cette indemnisation à partir du mois de juin et le rythme de sa dégressivité. Le gouvernement veut que les aides d'État disparaissent d'ici le mois de septembre, mais la profession craint que la reprise ne soit pas la même pour tout le monde. Il y a une grosse inquiétude, notamment concernant Paris et les grandes villes qui n'ont quasiment plus de touristes. L'hôtellerie et restauration demande donc que les coupes ne soient pas trop sèches.
Merci Carole Ferry du service Éco d'Europe 1. Notez par ailleurs que les cures thermales qui sont fermées depuis 6 mois pourront rouvrir le 19 mai avec une jauge de 50% de curistes. C'est une bonne nouvelle pour les intéressés.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, la suite du journal avec toujours Isabelle Millet. C'est un gros bazar, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'a mis Renaud Muselier au sein de son parti, Les Républicains.
En décidant de s'allier avec La République En Marche aux prochaines régionales en PACA, il s'est attiré les foudres des ténors LR qui lui ont retiré son investiture.
Un séisme politique qui a conduit cet après-midi Renaud Muselier donc à s'expliquer. Une mise au point d'ailleurs assez nébuleuse.
Oui, puisque finalement aucun parlementaire ni ministre du parti présidentiel, à commencer par Sophie Cluzel, ne seront les bienvenus sur sa liste.
Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de listes. Et pour la composition de ces listes qui ne sont pas faites, je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toutes leurs forces à des enjeux locaux et non nationaux. Ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens. Je le répète, personne ne peut douter de ma loyauté, de ma fidélité à l'égard de ma famille politique. L'investiture, je ne l'ai jamais demandé. J'ai demandé le soutien de ma famille politique. Et donc, je redemanderai le soutien de ma famille politique conformément au statut que je connais parfaitement. Mais je ne veux pas d'accord d'appareil et je veux mener cette campagne et nous la mènerons avec l'esprit le plus large possible.
Le soutien, c'est-à-dire pas de candidat en face?
Je ne sais pas qui a pu avoir une idée pareille.
Ça vous fait peur, une liste LR en face à vous?
Souvent, on me pose la question de savoir si j'ai peur. C'est mal me connaître. J'ai pas peur de grand-chose.
Voilà la mise au point de Renaud Muselier, le président du Conseil régional de PACA au micro européen de Frédéric Michel.
Alors, que va décider la direction du parti? Eh bien, c'est toute la question. Deux réunions sont prévues demain à Paris. Renaud Muselier y assistera. Les militants, eux, sont un peu déboussolés.
Oui, Stéphane Frangy, vous êtes notre correspondant à Marseille et vous leur avez demandé ce qu'ils pensaient de tout ça.
Eh bien, il y a tout d'abord de la colère et de l'incompréhension. Exemple pour Sandra Blanchard, elle est militante depuis 17 ans et elle est très remontée aujourd'hui qu'une liste concurrente LR à Renaud Muselier soit évoquée par certains.
Ah non, moi je comprends pas. Et de deux choses l'une, hein. Soit le candidat qui présente va être ridicule à faire 5% des voix, soit ce candidat qui présente, il va diviser les voix de la droite et du centre et du coup faire le jeu du Rassemblement National ou de l'extrême gauche. Plutôt que celui du Rassemblement de la droite et du centre, ben, franchement, il va falloir s'interroger sur ce que veut vraiment ce parti politique.
Alors le discours des militants locaux reste dans cette tonalité de défendre le bilan de Renaud Muselier avec une majorité régionale composée de 8 courants politiques différents de la droite et du centre. Mais parmi les électeurs traditionnels de la droite républicaine, il y en a d'autres comme Catherine qui rejettent toute forme d'entente LR-LREM.
Pour moi, c'est pas ça la politique. Bah, je pense que Monsieur Muselier aurait dû rester à sa place en fait. Bah, il est de droite. L'AREM, pour ma part, c'est plutôt mi-gauche, mi-droite. Donc que chacun reste à sa place.
Et puis enfin, les jeunes militants La République En Marche applaudissent à un rapprochement de raison, selon eux, car Renaud Muselier incarne à leurs yeux une droite compatible avec leurs valeurs.
Le reportage de Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Donc.
Voilà, sacré bazar. On y reviendra évidemment dans Les Grandes Voix à 18h30.
Et notez, pour rester dans cette région PACA, que plus de 7 mois après le passage de la tempête Alex, le train entre Breil-sur-Roya et Tende, dans les Alpes-Maritimes, le fameux train des merveilles a repris sa circulation ce matin.
Allez, un mot de foot Isabelle, à la veille du match retour du PSG contre Manchester City en Ligue des Champions.
Oui, vous savez qu'on est un peu inquiet hein, pour Kylian Mbappé qui a été victime d'une élongation au mollet au match aller. Alors sera-t-il remis demain? On devrait le savoir théoriquement d'ici quelques minutes. Les Parisiens qui sont arrivés en Angleterre, ils auront bien besoin de lui après la défaite au match aller. Paris qui pourra en tout cas compter, ça c'est sûr, sur le retour dans l'effectif de Leandro Paredes.
Bien, on attend des nouvelles dans les prochaines heures, on l'espère en tout cas. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. La météo avec Anissa qui nous annonce un ciel qui va s'assombrir demain.
Oui, et c'est à cause d'une perturbation, Julien, une perturbation qui va arriver dans la nuit par les côtes de la Manche. Alors demain matin, sur la moitié nord du pays, des Pays de la Loire jusqu'au Grand Est, hein, de Nantes à Strasbourg, en passant par le Poitou-Charentes ou encore la région parisienne, et bien dans toutes ces régions, il va pleuvoir demain matin. De la Bretagne, Haute-France, tout le long des côtes de la Manche, là nous avons un ciel qui alterne entre averses et éclaircies. Et puis un petit peu plus au sud, de la Gironde aux Alpes du Nord, là nous avons un temps sec, assez couvert le matin. Et plus au sud, alors là ça reste printanier, des Landes à la Côte d'Azur en passant par l'Auvergne et la vallée du Rhône. On a un soleil quand même qui résiste assez bien le matin. Quelques petits passages nuageux dans l'après-midi, mais la journée reste très agréable sur toute la moitié nord. En plus de la pluie, on a un gros coup de vent qui va concerner toutes les régions avec des rafales dans les villes jusqu'à 70 km/h. Alors côté température, bah c'est la même chose. Hein, la France est coupée en deux. On aura 6 à 10 degrés le matin et puis dans l'après-midi, 11 à 17 degrés sur la moitié nord, 11 à Langres, 14 à Lille, 17 pour Paris. Et dans le sud, c'est plus agréable et plus doux avec 19 degrés pour Bastia, 20 à Montpellier, 22 à Nîmes et 23 la maximale pour Carcassonne.
Eh bien, ils ont de la chance, nos amis du Sud. On les salue ici dans le studio d'Europe Soir à Paris. Merci Anissa, à tout à l'heure, 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h20, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler avec vous de l'école, du retour en classe des collégiens, des lycéens depuis ce matin. D'abord, un mot peut-être sur cette alliance politique qui fait beaucoup de bruit en région PACA. La majorité qui se rallie derrière le président de région, Renaud Muselier, un homme de droite, un homme du groupe Les Républicains. Est-ce que ça veut dire que La République En Marche et Les Républicains, en somme, c'est pareil?
Non, mais ça veut dire que région par région, on peut regarder quel est le bilan du président sortant et comment faire des majorités d'idées, comme on disait autrefois. Et on peut faire des choses constructives, d'autant plus qu'on est dans un contexte où on a besoin d'unité nationale,
oui.
On a besoin d'efficacité à l'échelle de chaque région.
Oui.
Rappelons que l'une des premières compétences de la région, c'est la compétence économique et qu'on est dans le contexte du plan de relance où c'est l'Europe et l'État qui sont à l'origine de la relance, mais c'est les régions qui ensuite sont souvent les acteurs de terrain. Et donc, il est très important qu'on réussisse à avoir des élections régionales qui produisent des majorités à la fois larges,
oui,
et utiles pour
et
le pays.
Pour faire barrage, on l'a compris, c'est un secret pour personne au Rassemblement national.
En plus, bien
en la
sûr,
personne de Thierry Mariani. Mais quand même, monsieur le ministre, est-ce que ça ne fait pas un peu tambouille politique à un moment où la défiance envers les politiques est très forte dans notre pays?
Eh bien justement, c'était ma réponse. Ce n'était pas une réponse de tambouille politique, c'est une réponse de développement économique et social pour le pays. On a besoin de majorités larges, on a besoin de gens constructifs.
Oui.
Vous savez, il y a beaucoup de...
Donc il pourrait y en avoir d'autres?
Pourquoi pas, bien sûr,
pourquoi
avec des présidents sortants ou présidentes de gauche et de droite, bien sûr, hein, et ça c'est conforme à l'ADN d'En Marche que de savoir faire cela. Ont envie de faire du chemin avec nous et que nos projets sont compatibles à l'échelle de la région. Pourquoi pas, si ça permet au cours des années qui viennent et au-delà de 2022, de développer des régions, tout simplement.
Bien. Alors, cette rentrée, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, pour les collèges et les lycées, avec un système de demi-jauge des élèves dans les établissements et la généralisation à terme des fameux autotests. Vous en avez annoncé 65 millions, je crois, d'ici à juin. 2 millions ont déjà été livrés pour les agents des écoles. Quand seront-ils concrètement disponibles pour les élèves, ces autotests? Alors, parce que nous, on a un peu cherché ce matin, on n'en a pas trouvé beaucoup pour l'instant.
Pour les adultes, ils sont déjà disponibles. Hein, c'est-à-dire, ils sont arrivés, comme vous venez de le dire, à l'école primaire la semaine dernière. Ils sont en train d'arriver dans les collèges et les lycées pour les adultes. Hein, ça fait déjà 8 millions de tests que nous livrons cette semaine à cette fin. Et puis ensuite, la semaine prochaine, les lycéens sont concernés avec un test par semaine. J'étais ce matin avec le Premier ministre. Qu'ils se feront eux-mêmes, mais sous la supervision, s'agissant des lycéens, sous la supervision des personnels dédiés. Et donc, peut-être que dans quelques semaines, on leur proposera de le faire à la maison, mais pour l'instant, ça se passe dans l'établissement, ils le font eux-mêmes.
Dans une salle spécialisée, au début de la classe.
Oui, chaque établissement l'organise à sa façon, en fonction de la configuration de l'établissement. Là, ce matin, par exemple, dans l'établissement où nous étions, près de Nancy, c'est dans le gymnase du lycée que cela se prépare, avec des tables bien éloignées les unes des autres, et puis l'infirmière scolaire qui montre comment on fait aux élèves.
Et qui appelle les parents et qui décide de la suite des événements si jamais le test est positif?
Alors, vous avez d'abord, en amont de tout ça, une autorisation des parents. Dès lors qu'il y a des mineurs, c'est toujours le cas. Et puis, en aval, s'il y a...
S'ils disent non, il n'y a pas de test.
S'ils disent non, il n'y a pas de test, non. Alors,
on peut refuser les autotests.
On a le droit de refuser les autotests. Oui, je ne le souhaite pas, évidemment. Mais c'est juridiquement
Chacun
ainsi.
Joue le jeu.
Oui, donc, je souhaite vraiment que chacun joue le jeu, c'est très
important.
Si le
test est positif, on appelle la famille.
Je rappelle qu'il n'est pas douloureux, le test.
On appelle la famille et immédiatement l'élève est renvoyé chez lui.
Oui, vous savez, on travaille en jonction avec les autorités de santé. Et donc, c'est elles qui, à ce moment-là, prennent le relais, appellent la famille et rompent la chaîne de contamination, puisque c'est un des objectifs que nous poursuivons. Et vous le savez, nous faisons ça tout au long de cette rentrée de cette année scolaire. C'est ainsi qu'on a réussi à maintenir les écoles ouvertes. C'est parce qu'on a eu cette fameuse stratégie testée, alertée, protégée, qui nous a permis, depuis septembre dernier, de rompre des chaînes de contamination par les tests.
Cette question, Jean-Michel Blanquer, des autotests est très importante. On en a régulièrement parlé à ce micro, parce qu'il y a eu des allers-retours parfois un peu incompréhensibles. Je vais m'en expliquer. Pourquoi avoir tant attendu pour les mettre en place dans les écoles? J'ai vu que les Britanniques l'avaient fait dès le 8 mars, les Allemands aussi. Pourquoi est-ce qu'on a attendu, nous, début mai, pour le faire?
Alors, d'abord, il y avait des enjeux de validation scientifique. Vous savez, d'abord, tous ne sont pas de même qualité, donc on s'assure quand même d'une qualité avant de le faire. Ensuite, il y a tout un travail de préparation. Et puis, rappelons que pour les pays que vous avez cités, très souvent, ils avaient fermé leurs écoles et que l'autotest a été quelque chose de préparé pour le retour à l'école. Nous, nous avions d'autres choses. Nous avions les tests salivaires en particulier. Nous sommes le pays qui teste le plus en Europe et les autotests viennent s'ajouter aux tests antigéniques.
C'est sûr, ça, on est vraiment le pays qui teste le plus en Europe.
Oui, et en plus, la France, vous le savez, teste gratuitement, ce qui est assez exceptionnel.
Oui.
Quand vous regardez nos voisins, ils font souvent payer et assez cher d'ailleurs.
Oui.
Nous, en France, c'est gratuit et c'est à volonté. Et maintenant, nous le déployons dans le système scolaire dans des proportions inégales.
Je vous pose la question sur les autotests, car on a le sentiment parfois en France, monsieur le ministre, que tout est très compliqué. On nous avait dit, allez, on va les vendre partout et très vite. Carrefour en avait commandé plus d'un million de ces fameux autotests. Puis Olivier Véran, ministre de la Santé, nous a dit, attention, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est un geste médical et ça n'est pas si simple. Il les avait testés lui-même, il avait dit ça. Et puis, il a finalement été décidé qu'ils seraient vendus en pharmacie et plus dans les grandes surfaces. Et puis finalement, on nous dit qu'aujourd'hui, les enfants de 15 ans vont pouvoir se les faire eux-mêmes. Alors, ça veut dire que... pas si compliqué, ces autotests. Vous comprenez ma question, monsieur le ministre? On a l'impression parfois que les choses sont très compliquées, qu'il y a des lourdeurs administratives qui paralysent les choses.
Bon, il n'est pas complètement étonnant qu'en matière de santé, il y ait quand même toute une série de vigilances qui existent de la part des autorités de santé. Et ce que vous avez dit dans la première partie de votre question relève des autorités de santé et des nécessaires étapes qu'elles passent pour différents sujets. Mais sinon, sur ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des élèves de 15 ans et peut-être même de moins de 15 ans qui le font, c'est sous la supervision d'adultes, quitte à ce qu'ils s'autonomisent et qu'ils sachent le faire.
Mais ce n'est pas une critique, c'est très bien. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant?
On est en train de le faire. En plus, les autotests ont été, je crois, en partie inventés en France. On doit aussi avoir de la fierté vis-à-vis de ça. Vous savez, on regarde toujours ce qui ne va pas ou qui soi-disant ne va pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont fortes, en particulier le fait qu'on fait autant de tests en France et que ce soit gratuit.
Parce qu'il y a une autre question par effet de ricochet, c'est sur la vaccination. Là aussi, on a l'impression qu'on pourrait faire simple et qu'on fait compliqué. Vous dites régulièrement, à juste titre, l'école, c'est l'élément le plus important aujourd'hui en France, il faut laisser les écoles ouvertes. Pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas, par exemple, tous les profs, quel que soit leur âge, à se vacciner ? Aujourd'hui, c'est très compliqué, il faut avoir plus de 55 ans ou avoir des comorbidités ou être obèse. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, voilà, tous les professeurs de plus de 25 ans, on les autorise à la vaccination ? C'est simple, c'est lisible, c'est efficace.
Le sujet s'ouvre de plus en plus, vous le savez. Bon, y a une stratégie centrale qui est d'aller des plus vulnérables vers les moins vulnérables. Et ensuite, sur cette stratégie centrale, vient se greffer l'approche par métier. Donc les soignants d'abord, les professeurs dans un deuxième temps. Déjà, le président de la République l'a affirmé, ce qui est important. Et puis, ça a commencé à se mettre en œuvre avec notamment tous les circuits spécifiques qu'on a créés pour les professeurs et les forces de l'ordre dans des centres dédiés. Alors, il n'y en a pas eu autant que ce qu'on souhaitait de plus de 55 ans qui sont allés, mais enfin, quand même plusieurs milliers, évidemment. On sait que l'AstraZeneca a parfois rebuté certains. C'est pour ça que je me suis fait moi-même vacciner à l'AstraZeneca pour bien dire qu'il ne fallait pas avoir peur. Et tout va bien, je suis en forme, je vous assure. Et donc, j'incite évidemment les plus de 55 ans à continuer à y aller fortement.
Mais la vaccination et pour les plus de 50 ans,
eh ben, on va y arriver très rapidement. Vous savez, il y a déjà les plus de 50 ans, ça va être très bientôt, comme vous le savez. Et puis, on travaille encore sur des populations spécifiques. Mais à mesure que nous avons environ 10 millions de vaccins en France par mois, on va être capable de vacciner les professeurs, évidemment, avant l'été. Et le plus rapidement possible. Comme vous l'imaginez, je travaille à cela, mais on doit tenir compte de certaines priorités.
Donc,
ils
sont tous vaccinés pour la rentrée.
Oui, mais même, vous savez, il y en a déjà un certain nombre qui sont vaccinés, y compris parce qu'ils ont été dans des circuits spécifiques, parce qu'ils ont des comorbidités, etc. Et donc, bien sûr que j'aimerais que ça avance plus vite. Vous l'imaginez bien. On fait tout pour ça. Mais on doit tenir compte de certaines contraintes et nous avançons. Tout de même.
Beaucoup d'inquiétudes et de questions des auditeurs et des auditrices d'Europe 1 sur l'organisation des examens de fin d'année et notamment du bac. Les lycéens n'auront que le grand oral à présenter ainsi que la philosophie, le reste étant du contrôle continu. Est-ce qu'on en sait plus sur le déroulement de ces examens ?
Alors, d'abord, ma boussole, c'est la bienveillance vis-à-vis des élèves.
Oui.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout fait, tout ce que je pouvais pour que cette année soit la plus normale possible, en tout cas que les écoles, les collèges et les lycées soient ouverts. Et chacun le sait, c'est une force de la France quand on se compare aux autres. Ça ne veut pas dire que l'année a été pure et parfaite. Il y a évidemment des contraintes, des difficultés.
Mais pourquoi avoir gardé deux matières et ne pas avoir passé l'intégralité des matières en contrôle continu ?
Alors déjà, on a passé des matières d'examen terminal en contrôle continu. Oui. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle les enseignements de spécialité qui devaient avoir lieu en mars et qu'on a transformé en contrôle continu.
Mais il en reste le grand oral et la philo.
Déjà, là, nous ne parlons que du baccalauréat général et technologique. Il faudrait parler aussi du baccalauréat professionnel. Mais en tout cas, s'agissant du baccalauréat général et technologique, 82% de la note sera de toute façon en contrôle continu. Sur le 18% restant, c'est le grand oral d'une part, l'épreuve de philosophie écrite d'autre part. Je reste ouvert sur les aménagements possibles. Mais je tiens quand même à ce qu'on ne passe pas au contrôle continu intégral parce que je pense aux élèves, justement. Vous savez, j'ai souvent dit, on passe le baccalauréat pas pour le baccalauréat lui-même, mais pour ce que ça va permettre de réussir ensuite. Et donc, il faut entraîner les élèves à des choses positives pour eux. Bien écrire en philosophie, être capable de s'exprimer à l'oral et de passer le grand oral sur ses enseignements de spécialité sont des objectifs pour que, tout simplement, les élèves préparent leur avenir. Donc, sur les modalités, on va encore évoluer pour que ce soit le plus favorable possible pour les élèves. J'ai déjà commencé à regarder dans quelle mesure on pouvait faire en sorte que les professeurs donnent à leurs élèves un message pour l'oral pour signaler les parties du programme qui n'ont pas été vues, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impasse pour l'élève. Ça, c'est une mesure que l'on va prendre. Il y aura aussi d'autres mesures. Je vais recevoir les organisations lycéennes, les organisations syndicales toute cette semaine pour d'autres aménagements qui permettent, là encore, d'amener les élèves à la réussite. Mais vous savez, ce qui compte, c'est la bienveillance réelle, pas la bienveillance apparente. Donc, la bienveillance réelle, c'est de vouloir que les écoles soient ouvertes et de vouloir que les élèves puissent travailler dans un sens qui prépare leur avenir.
Bien, merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été ce soir notre invité.
Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le rappel des titres avec Isabelle Millet, 18h30.
Et Renaud Muselier qui riposte après avoir vu son investiture retirée par les Républicains suite à son alliance avec La République En Marche en région PACA. Il n'y a ni accord d'appareil, ni fusion de liste. Je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent au niveau local, dit-il. Il écarte donc la présence de Sophie Cluzel sur sa liste et il indique qu'il sera demain à Paris pour défendre ses positions et pour redemander le soutien de sa famille politique. Le procès de Nordal Lelandais pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer s'est ouvert aujourd'hui à Chambéry. « Je n'ai jamais voulu lui donner la mort », a-t-il déclaré. L'Allemagne a démantelé un vaste réseau de pédopornographie sur Internet. Ce serait même l'un des plus grands au monde. Il comptait plus de 400 000 membres. À l'approche de l'été, la Commission européenne propose de permettre l'entrée dans l'Union aux voyageurs en provenance de pays tiers. Mais à condition qu'ils aient reçu les doses nécessaires de vaccins autorisés au niveau européen. Et puis la célèbre fête de la bière à Munich, qui se tient tous les ans à l'automne dans la capitale bavaroise, annulée pour la deuxième année consécutive, victime à son tour d'une situation sanitaire trop incertaine.
Tristesse totale.
C'est vrai.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal à 19h. Un coup d'œil à la météo avec Anissa Dadi. Un bon coup de vent sur la moitié nord attendu demain, Anissa.
Oui, ça commence dès ce soir, hein, Julien, sur les côtes de la Manche. Les rafales vont atteindre les 100 km/h. Cette nuit, le vent va se renforcer. C'est sur les côtes normandes et sur le Cotentin que les rafales seront les plus fortes, avec parfois même des rafales tempétueuses, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 100-110 km/h au bord de la Manche. Dans les terres, sur les régions situées au nord de la Loire, personne ne sera épargné. Le vent va s'engouffrer demain matin sur toute la moitié nord du pays, de la Bretagne jusqu'au Grand Est, ça va souffler pour tout le monde avec des rafales sur les centres-villes jusqu'à 70 km/h. Demain, le temps est humide et venteux sur la moitié nord du pays, plus ensoleillé et printanier sur la moitié sud. Côté température, c'est pareil, il fera plus frais au nord avec 12 à 17 degrés l'après-midi et jusqu'à 23 dans le sud.
On va retrouver du beau temps, frère, rassurez-moi.
Alors, il va falloir être patient.
Un petit peu ?
Ouais, la
semaine, semaine.
La semaine va se dérouler comme ça, France coupée en deux toute la semaine et ce week-end pour le 8 mai. On voit quelques brouillons
bien,
de soleil. Merci de
nous trouver des bonnes nouvelles quand même. Merci,
je cherche,
Anissa.
On
se retrouve tout à l'heure à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Place au débat des grandes voix du lundi avec ce soir mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonsoir Brice.
Bonsoir Julien.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Zapalski, communicante politique. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir avec nous ce soir. C'est donc la polémique qui secoue la droite républicaine. Le parti LR a décidé de retirer l'investiture, on en parlait dans le rappel des titres, de Renaud Muselier, président sortant de la région PACA et candidat à sa succession, après son alliance donc avec LREM, annoncée par Jean Castex en personne. Réaction de Christian Jacob, le patron du parti LR, c'est une petite manœuvre électorale. Alors, Renaud Muselier lui assume, il s'est exprimé cet après-midi.
Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de liste. Je le répète, personne ne peut douter de ma loyauté, de ma fidélité à l'égard de ma famille politique. L'investiture, je ne l'ai jamais demandé. J'ai demandé le soutien de ma famille politique. Et donc, je redemanderai le soutien de ma famille politique conformément au statut que je connais parfaitement.
Bien, il y a plein de choses à dire parce qu'évidemment, les implications sont multiples. Je tourne vers vous d'abord, Brice Teinturier. Est-ce que cette alliance, c'est l'assurance d'une victoire pour Renaud Muselier ?
Non, je ne crois pas. Ce n'est pas l'assurance d'une victoire. Le Rassemblement national, d'abord, en 2015, avait obtenu plus de 40% des suffrages. Finalement,
c'était Marion Maréchal Le Pen à l'époque qui était candidate.
Il a fallu que les listes de gauche se retirent pour que la droite puisse être élue. Donc c'est un combat maintenant avec Mariani. Et cette alliance, quoi qu'en dise là Renaud Muselier, cette alliance peut perturber une partie des électeurs de droite qui refusent justement que la droite soit soluble dans le macronisme. Donc on ne sait pas très bien comment vont se reproduire les électorats. On va travailler dessus dans les jours à venir, mais ce n'est pas
vous.
Du tout une garantie, en tous les cas, pour Renaud Muselier de faire ce type d'opération dès avant le premier tour.
Alors, Émilie Zapalski, je vous pose la question à l'envers. Est-ce que ça peut profiter à Thierry Mariani, qui est donc le candidat investi pour le Rassemblement national ?
Mais ce qu'on voit, c'est que oui, la position de Thierry Mariani, elle est assez avantageuse à l'heure actuelle, hein, parce qu'il était déjà en position de force. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Marion Maréchal, hein, 40% quand même dans cette région. Et là, quelque part, on a Thierry Mariani, ex-LR, avec un possible électorat qui se tournerait vers lui, ras-le-bol de la tambouille politicarde.
Oui.
On l'a entendu, Renaud Muselier, il essaie de dénationaliser en fait cette campagne, mais il a beaucoup de mal. On a entendu que ça. À côté, on a Xavier Bertrand, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui,
oui,
qui parle des Hauts-de-France, qui parle de sa région, qui parle de l'économie, qui parle des jeunes, qui parle de l'industrie. Là, on a un Renaud Muselier qui essaie simplement de se défaire de cette vampirisation nationale. Hein. C'est le Premier ministre qui a annoncé cette alliance.
Vous pensez que ça peut avoir un effet repoussoir sur les électeurs traditionnels LR ? Parce que Renaud Muselier, c'est un personnage qui est apprécié par un certain électorat en région PACA, presque comme un maire, j'allais dire. C'est quelqu'un qui fait partie de la vie locale.
Oui, mais là, c'est un pacte. C'est pas un pacte avec le diable, mais c'est un pacte quand même. C'est une alliance. Et même s'il parle pas d'appareil politique, on voit bien ce qui se trame. Moi, j'ai l'impression que ça donne la faveur, justement, à des personnalités hors LR, comme oui. Xavier Bertrand. On a entendu aussi Valérie Pécresse, qui n'a pas les mêmes problématiques. En Ile-de-France, le Rassemblement national est beaucoup moins élevé, mais qui dit « pas d'alliance, moi pas d'alliance ». Ça donne un petit peu la faveur à ces personnes-là qui pourraient être vues comme finalement les alternatives, les véritables alternatives pour lutter contre le RN.
Et qui sont candidats à la présidentielle, ce que n'est pas Renaud Muselier.
Et ça change
la même chose. Jusqu'à preuve du contraire.
Mais moi, je ne suis pas très convaincu que l'impact de Renaud Muselier dépasse les Bouches-du-Rhône. Et notamment même Marseille. N'oubliez pas dans quelles conditions il est devenu président de PACA, de Provence-Côte d'Azur. Simplement, il a été mis en place par Christian Estrosi, oui. président élu, qui avait battu donc au deuxième tour Madame Marion Maréchal, et qu'il a mis en place parce qu'il était menacé, enfin la mairie de Nice, menacé de tomber dans d'autres mains que celles évidemment de l'équipe d'Estrosi. Oui. ou de ceux oui, qui pouvaient éventuellement le remplacer. Et donc, il est allé, il a gagné, bien sûr. Et là, on reste toujours sur ce souvenir-là.
Oui.
Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quelque chose qui pèse et qui peut peser en faveur de Thierry Mariani, non seulement parce que c'est un ancien républicain, mais aussi ministre de Sarkozy. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une très forte communauté pieds-noirs. Et vous savez, les enfants des pieds noirs, parce que ceux qui sont venus en 62 ont beaucoup vieilli, beaucoup ont disparu, mais les enfants notamment qui peuplent les associations pieds noirs sont encore plus pieds noirs que leurs parents. Et la déclaration du président de la République sur la colonisation et sur la guerre d'Algérie, considérant que c'était un crime contre l'humanité, a beaucoup pesé justement
aux dernières municipales. Et vous pensez que ça peut, au bout du bout, avoir un impact sur l'élection régionale ?
Oui, je pense que de toute façon, cette alliance,
une partie de l'électorat en tout cas.
Et notamment la manière dont il veut s'en défaire, oui. on l'a entendu, Renaud Muselier, montre bien que ça peut perturber oui. complètement l'électorat.
Alors, je vous pose l'histoire du rapport de force, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est exprimé ce matin à ce micro, à Europe 1, c'est Éric Ciotti, pour qui cette alliance va offrir d'une certaine manière la région à Thierry Mariani, justement, on l'écoute.
Vous dire ce matin ma tristesse et ma honte du spectacle qui est offert aux électeurs de la droite républicaine dans notre pays. Renaud Muselier a fait un choix, ce choix je le déplore, je le regrette, je le condamne fermement, parce que ce choix va conduire vraisemblablement à l'élection de Thierry Mariani.
Après, si on regarde les choses de façon très analytique, c'est pas complètement délirant. Quand on voit les membres du gouvernement aujourd'hui d'Emmanuel Macron, il y a la moitié des membres des ministres régaliens qui sont des hommes de droite. Donc une alliance régionale avec quelqu'un de droite, ça peut faire sens quand même.
Vous avez clairement, et c'est ce que révèle cette affaire, vous avez clairement deux droites aujourd'hui, régionalement et nationalement. Régionalement, et Charles Villeneuve le rappelait, Renaud Muselier, Christian Estrosi, Hubert Falco sont plutôt pour un rapprochement avec la REM. Et une partie des électeurs peuvent suivre. Et puis vous avez une autre droite incarnée davantage par Éric Ciotti ou d'autres qui voit le danger pour la droite, on va dire, classique gouvernementale de ce type d'alliance. Comment être allié sur une régionale et combattre Emmanuel Macron le lendemain lors de la présidentielle.
Oui.
Donc celle-là est arc-boutée contre toute alliance avec La République En Marche, au risque de perdre des électeurs de centre-droit qui, eux, veulent entendre parler d'autre chose que d'immigration et de terrorisme et, par exemple, de questions économiques. Et c'est ça qui se joue à la fois régionalement c'est et nationalement.
Le risque d'implosion de la droite, Émilie Zapalski, il est réel ?
Oui, il est réel. Puis là, on sent que c'est les prémices de la présidentielle 2022. On voit bien des républicains qui assistent comme ça, passivement, au désossement de leur parti. On a la même chose au présidentiel. Ils n'ont pas de candidat. Il est bien, Éric Ciotti, mais ils n'ont pas de candidat. Et ils sont en effet proche de la scission avec deux pôles complètement différents. Donc on voit bien qu'il y a peu de possibilités. Mais après, il y a l'autre face, c'est l'AREM.
Oui.
Si jamais cette fusion ou cette alliance, comme on dit, puisque ce n'est pas les appareils politiques, ne gagne pas, qu'est-ce que ça veut dire pour 2022 ?
Oui.
Ça veut dire que l'AREM et LR ne sont pas capables d'affronter le Rassemblement national. Ça aura des incidences très très fortes, à mon avis.
On verra ce que ça présage pour l'élection présidentielle, parce que c'est un peu le coup d'envoi d'une certaine manière aussi de la campagne présidentielle. On en parle après la pause. 18h39, restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec la suite du débat des grandes voix du lundi, toujours Charles Villeneuve, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, et Émilie Zapalski, communicante politique, qui est avec moi dans le studio d'Europe Soir. Alors évidemment, on continue à parler de cette polémique qui secoue la droite républicaine, le parti LR qui a décidé de retirer l'investiture de Renaud Muselier. Et tout à l'heure, eh bien, c'est Thierry Mariani, candidat RN aux élections régionales dans cette même région PACA, qui s'est exprimé. Il disait ceci.
Moi, j'ai connu le parti de Pasqua et de Seguin. J'ai connu un parti qui avait des convictions. Aujourd'hui, je vois un mouvement qui ne sait plus où il est et qui en est à faire toute une série de compromissions. Et c'est pour ça que j'ai quitté les Républicains, parce que je pense que petit à petit, ce parti est en train de se fourvoyer. Vous en avez encore un exemple ce week-end.
Voilà. Les Républicains sont en train de se fourvoyer, nous dit Thierry Mariani. Et c'est vrai que les macronistes disent aujourd'hui il y a deux droites irréconciliables, pour reprendre une expression chère à Manuel Valls à propos de la gauche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Charles Villeneuve?
Absolument. Je crois qu'elle est éclatante. De toute façon, dans cette opération, le président de la République, qui l'a préparé de longue main, depuis des semaines et des mois,
oui,
à travers Christian Estrosi, à travers Hubert Falco et accessoirement à travers Muselier, parce que les leaders sont plutôt du côté du Var et des Alpes-Maritimes, il est bien évident qu'il a un double objectif. D'abord, créer un rideau de fumée pour masquer la quasi-nullité de La République En Marche en Provence-Côte d'Azur, et pas seulement d'ailleurs, et là, Brice Teinturier pourra le dire, dans d'autres, bien d'autres régions, et de couper les jarrets aux Républicains. Et couper les jarrets, là, il est en passe d'y réussir, en tout cas d'une partie de cette droite des Républicains qui, depuis le départ, ne veulent pas de La République En Marche.
Mais ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui d'espace pour une entité indépendante de la droite républicaine, c'est-à-dire qu'à terme, une partie de la droite républicaine, ce qui est déjà le cas, je le disais tout à l'heure, avec des ministres régaliens qui ont rejoint Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Jean Castex, qui est le premier d'entre eux, et plein d'autres. Ça veut dire qu'une partie d'entre eux va continuer à rejoindre La République En Marche et Emmanuel Macron pour une alliance en vue de 2022, et puis l'autre aura le choix aussi de rejoindre le Rassemblement National de Marine Le Pen. Est-ce qu'il y aura un espace pour rester indépendant, Brice Teinturier?
Il y a un espace, mais qui s'est considérablement réduit. C'est un peu comme pour le PS, hein, qui est coincé entre l'offensive d'Emmanuel Macron d'un côté et puis une gauche beaucoup plus radicale de l'autre. Eh bien là, les LR sont coincés entre le RN, qui en plus cherche à capter un électorat maintenant de droite plus traditionnel,
oui,
plus âgé, à le rassurer sur les questions économiques, sur les questions de l'euro. Et puis d'un autre côté, un Emmanuel Macron qui, lui, la poutre travaille, hein, comme disait Édouard Philippe, cherche depuis le début de plus en plus à reprendre cette partie de la droite qui, elle, est sensible aux enjeux business, à la mondialisation et pas uniquement aux questions d'immigration. Donc, à l'intérieur de cette double pression, vous avez un espace qui existe toujours. Mais on le voit bien dans les enquêtes aujourd'hui, telles qu'elles sont incarnées par Xavier Bertrand comme candidat. C'est un espace qui se joue à 14, 15, 16%. Et tout l'enjeu et toute la difficulté pour les LR, c'est d'élargir, a fortiori quand les deux pinces de la tenaille essayent de se renforcer, à la fois du côté de Macron et du côté de Marine Le Pen.
Ça peut créer... Charles Villeneuve.
Non, mais qu'est-ce qui se joue dans une partie de la tête, si vous voulez, des stratèges ou semi-stratèges de la droite qui éventuellement va radier le président de la République? Il se joue la deuxième partie, si vous voulez, le deuxième grand vote de la prochaine élection présidentielle, les législatives. Il est bien évident que si une grande partie de la droite rejoint le président de la République, le camp, non seulement, il l'a dit, le Premier ministre Castex, en annonçant cette alliance, il l'a dit en disant que c'est une recomposition présidentielle. Cette recomposition présidentielle ou législative va faire que beaucoup de républicains vont avoir une bonne chance d'être élus députés. Ouais. Or, il joue déjà 2027.
Oui. Aussi un autre élément, Émilie Zapalski, c'est que ça peut, en cas de victoire hein, de Thierry Mariani, Rassemblement National en région PACA, ça sera un nouvel élément de la normalisation et de la dynamique en faveur du Rassemblement National et de Marine Le Pen, dont on parle beaucoup quand même en ce moment.
Oui, puis une région Rassemblement National, ça serait un véritable échec hein, pour cette fusion, pour cette alliance. Hein, ça veut dire beaucoup, beaucoup, encore une fois, pour 2022. Ça présage rien de bon.
Donc on est à l'aune d'une recomposition politique encore plus majeure que ce qu'on avait connu là depuis l'élection d'Emmanuel Macron.
Je pense que là, les choses s'accélèrent et on voit bien, en effet, comme le le disait Brice Teinturier, que le RN change de discours. On a entendu un plan jeune de la part de Marine Le Pen. On entend un volet social qui n'existait pas avant. Oui. On entend une position vis-à-vis de l'Europe qui est bien plus modérée. On sent bien qu'il y a cette installation. Il y a eu la tribune des généraux, hein, quand même. C'est pas rien, les Français qui soutiennent. Donc l'aspect sécurité, l'aspect social, on sent qu'il y a un vent comme ça favorable. De l'autre côté, moi j'ai l'impression qu'il y a cette place... Peut-être moins pour les LR. Encore une fois, moi, j'ai l'impression que c'est la droite républicaine qui s'exprimerait hors LR. En effet, avec des élus locaux, des gens pragmatiques qui font leurs preuves sur leur terrain, comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, qui sont plus dans le terrain, les mains dans le cambouis. Et ça peut éventuellement fonctionner comme personne alternative, comme troisième homme ou femme pour renouer avec un hors RN.
C'est justement ce que veut éviter le président de la République. Oui. Il ne veut pas l'émergence d'un troisième candidat qui pourrait lui...
Sauf qu'il peut émerger hors LR.
Qui pourrait l'affaiblir sur le premier tour.
Peut-être un dernier mot, Brice Teinturier, pour en finir avec cette thématique, puis on marquera une nouvelle pause. La politique, c'est aussi, d'abord et surtout, j'ai envie de dire, le débat d'idées. Le débat. Non, les gens qui nous écoutent se disent, on parle beaucoup de tambouilles politiques, de petites alliances, de petits mécanos politiques, mais il y a un débat d'idées derrière. Est-ce que ce débat d'idées aujourd'hui, il est perçu par les Français avec des clivages forts entre les partis?
Vous avez mille fois raison, parce que le drame de cette présidentielle, c'est qu'elle est en train de se construire uniquement autour de la question de Marine Le Pen. Et donc d'escamoter les sujets qui préoccupent les Français, les sujets économiques, les sujets sociaux, les sujets régaliens, dont on ne parle pas, puisque le seul enjeu devient qui est le plus capable de battre Marine Le Pen, est-ce que c'est telle ou telle combinaison. Donc l'effet premier, je pense, de ce type d'opération, ça va être de recréer de la distance, de l'envie de dégager en fait tous ces responsables politiques qui ne sont pas en phase avec les vrais sujets. Alors il y a des différences, pour répondre à votre question, bien sûr que quand on regarde quand même les propositions, les orientations de ces différents candidats, j'ai envie de dire, jamais peut-être la France...
On les voit de moins en moins quand même. Hein.
On les voit de moins en moins, il faut aller les regarder. Si vous prenez quand même ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, ce que raconte le Parti Socialiste, les écologistes, Macron, les LR, le Rassemblement National, en réalité vous avez une fragmentation extrême, chacun est dans son corridor, mais ces corridors sont très différents, mettent en avant des préoccupations différentes.
Un mot, Charles Ménard.
Simplement, Brice, est-ce qu'il faut exclure un troisième candidat qui émerge quand on sait que les Français ne veulent pas du duel Macron-Marine Le Pen?
Eh bien, tant que vous ne me donnerez pas un nom potentiel, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que le candidat qui arrive à la dernière minute, en moins d'un an, qui se fait connaître... Non, parce qu'on fait l'analogie avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était connu. Il était connu depuis 2015.
18h48, on marque une pause. On dira un mot du déconfinement, parce que c'est quand même la bonne nouvelle du jour, la première étape du déconfinement. Et ça peut aussi avoir des incidents sur la campagne électorale. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du lundi suite avec toujours Charles Villeneuve, Brice Teinturier de l'Ipsos et la communicante politique Émilie Zapalski. Alors je voudrais quand même qu'on dise un mot de cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du jour, l'étape 1 du déconfinement avec la fin des restrictions de circulation. C'est la fin des 10 km et l'interdiction de passer d'une région à l'autre. Ça y est, on peut circuler en France avec maintenant en ligne de mire évidemment la date clé du 19 mai à laquelle les terrasses pourront rouvrir ainsi que les musées, les salles de spectacle et les cinémas. Et cette fois, comme le titrait hier le JDD, ça passe ou ça casse. Réaction d'ailleurs ce matin de Martin Hirsch, président de la PHP.
La circulation du virus entre les uns et les autres, elle dépend davantage de notre comportement à tous que des décrets, des arrêtés, de ces dispositions qui nous sont imposées. Elles dépendent des choix que nous faisons.
Voilà, des choix que nous faisons. Autrement dit, il faut rester vigilant et continuer à être, nous, Français, vigilants. Mais quand même, Charles Villeneuve, c'est une bonne nouvelle. Le déconfinement, ça y est, c'est parti, parce que ça fait quoi, 8 mois qu'on en parle de ce déconfinement-reconfinement. Là, pour la première fois, on a une perspective avec un changement de doctrine quand même de la part du président de la République qui l'a verbalisé, qui l'a acté. Vivre avec le virus, ça y est, on y est.
Moi, je crois que le président de la République, tout comme d'ailleurs la chancelière allemande, ont bien senti tous les deux qu'on est entré dans une période transitoire et qu'il fallait ouvrir les vannes. Pas complètement, pas évidemment à plein tonneau, parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de précautions à continuer à prendre. Mais il n'empêche, je trouve que les premières mesures, telles qu'elles sont calculées, vont dans le bon sens.
Mais parce qu'il y a
trop d'atteintes au moral, il y a trop d'inquiétudes sur l'économie des services, il y a trop de plateaux télé où se succède un cluster de spécialistes mortifères. Je trouve que il fallait le faire.
Ouais. Avec quand même un pari, parce que ça reste un pari politique, Émilie Zapalski, on voit que le niveau de circulation du virus reste élevé. D'ailleurs, le gouvernement s'est fixé l'objectif de repasser sous la barre du taux d'incidence des 400 cas pour 100 000 habitants avant de déconfiner totalement. Il y a plusieurs départements dont ça n'est pas le cas, par exemple la Seine-et-Marne ou encore la Seine-Saint-Denis. Pari risqué ou il
fallait
le faire ?
Oui, mais le pari, il est fait depuis fin janvier. Hein, et on n'entendait plus parler de critères et de paramètres sanitaires, scientifiques. Ouais. Hein. Là,
pas
ça revient.
Il y a eu le reconfinement duquel on vient de sortir.
Oui,
quand même.
Couvre-feu, ce n'était pas un vrai confinement.
Pardon,
en fait, le pari. En tout cas.
Restriction de circulation et fermeture des écoles.
Alors, oui, couvre-feu, mais c'est sur la rhétorique. En fait, Emmanuel Macron, il veut sortir par le haut de cette crise qui a été quand même mouvementée, un épisode des tests, des masques, de la vaccination qui a démarré très lentement. Il ne veut plus être le président qui reconfine, qui réenferme. Il a muselé les médecins pendant quelques mois là-dessus. Donc, et on parle de frein d'urgence éventuellement si l'épidémie reprend par-ci, par-là, localement. Donc on ne parle plus du tout de reconfinement. Emmanuel Macron ne veut plus en entendre parler. Il veut vraiment être le président qui réouvre, comme Merkel en effet. Mais moi, je veux quand même le dire, ça tient sur les épaules des soignants. On est quand même à 5600 personnes en réanimation. Ça baisse, mais ça baisse très doucement. C'est des soignants qui voient partir les gens, mourir des gens depuis un an et demi. Ça tient quand même sur eux. Ce pari, il est reposé sur eux. Et il faudra voir ce que ça crée comme fracture. Parce que l'hôpital public, il n'a pas gagné un sou de plus ou très peu. Le Ségur de la santé, ça a été quand même un petit peu de l'esbrouf. Oui. Ça va laisser des traces. Et justement, pour parler de la présidentielle...
On a supprimé les lits de réa depuis un an.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura des choses de faites là-dessus ? Pour l'instant, il n'y a pas ça. Il y a ce pari pour la population, mais c'est un pari risqué quand même qui repose sur les épaules des médecins.
Brice Teinturier.
Oui, c'est un pari risqué, mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé au cours des dernières semaines, c'est qu'on a franchi le cap des 100 000 morts. Ça n'a pas bouleversé, semble-t-il, les Français. Donc, ce qui se joue, c'est moins la gravité de l'épidémie et ce critère-là comme critère d'évaluation de la politique d'Emmanuel Macron que l'idée qu'il faut en sortir, qu'il y a un coût pour la société, qui n'est pas seulement économique, de lassitude, de souffrance pour toute une partie de la population et pas simplement, encore une fois, de souffrance économique qui fait qu'il y a une aspiration à ce qu'on en sorte. Et donc, quand le pouvoir commence à dire « je desserre les freins », il prend un risque par rapport aux chiffres, vous avez raison, parce que l'épidémie, elle est toujours extrêmement présente.
Mais là, on va sortir à 20 000 cas.
Mais il est en phase, je crois, avec des aspirations profondes.
Un niveau d'acceptabilité qui arrivait... peu à son maximum.
Oui, mais qu'est-ce qui va se passer
depuis quelques semaines, on voyait bien que de moins en moins, les Français respectaient, bon an, mal an,
il y a quand même une responsabilisation des Français, même s'il y a des fêtes à droite à gauche, il y a eu quelques petites fêtes et choses comme ça, mais on est quand même assez responsable et assez civique.
Mais
qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on déconfine, vous vous souvenez, on parlait de 5000 cas positifs, hein. Là, on en est à encore 10 000 parce que c'était le week-end, mais on en est plutôt à 20 000 en moyenne. Qu'est-ce qui se passe si ça explose? Parce qu'on a un variant indien quand même qui arrive sur nos terres. Qu'est-ce qui se passe? On referme le pays et ça veut dire que psychologiquement, ça va être compliqué.
Justement, est-ce que du coup, la bonne nouvelle du jour,
je suis désolé, mais je pense aux soignants quand même.
Et
aux morts, on est quand même à 200 morts.
Je crois qu'on en a assez. Je trouve ce discours très mortifère, le sien.
C'est factuel, hein.
Oui, non, c'est pas factuel.
On est à 200 morts par jour.
C'est pas factuel. Je trouve qu'il a été assez astucieux d'essayer d'ouvrir, si vous voulez, par étapes, progressif.
Là, on va vite.
Avec en parallèle une ouverture de la vaccination aussi. Au 18-55 ans.
Qui est allé beaucoup moins vite que prévu.
Et ça, c'est un... Non, mais arrêtez de nous mettre des freins mortifères.
On va pas vite, la vaccination, on a rebaissé. Hein.
18h57, on se retrouve dans quelques secondes avec le journal et puis on parlera de l'héritage. Faut-il taxer encore plus l'héritage, comme vient de l'annoncer Joe Biden aux États-Unis? C'est le grand débat du Club des idées. À tout de suite.